Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ils ont entre 25 et 40 ans, ou alors ce sont leurs enfants. Ils vivent dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Ils vont au Bataclan, au Carillon, au Petit Cambodge, à la Belle Équipe. Et s'ils vivent ailleurs, à Lyon, dans le 18e ou en banlieue, c'est dans ces quartiers qu'ils viennent manger pas cher, boire et parler fort, s'embrasser en abominable perverti. Ce soir-là, Alain allait dîner au Petit Cambodge, mais il a fait demi-tour, jugeant l'endroit trop bruyant finalement. Le fils de Manu a renoncé au concert du Bataclan parce qu'il avait trop de travail. Delphine a perdu une amie au Bataclan, Clotilde a perdu son cousin au Bataclan, Rémi a perdu un camarade de classe au Bataclan, Margot est restée prostrée toute la soirée dans un bar à côté, Stéphane sans bouger au milieu des corps ensanglantés. La fille de Leïla a perdu deux amis au Bataclan et aussi son prof de marketing. Eux, ce sont les producteurs des Pieds sur Terre, une génération de collaborateurs de France Culture, leurs parents ou leurs amis. Eux, ce sont les stagiaires, les réalisateurs, les techniciens avec lesquels nous travaillons chaque jour. Cette fois, eux, c'est nous. Ce sont eux les cibles des attentats de vendredi, ce sont eux qui étaient visés, qui ont été touchés. Ce ne sont plus des juifs ou des militaires, des journalistes ayant publié des caricatures, mais une génération, un mode de vie, un sociotype, comme on disait avant. C'est ce qu'ils ont dit tout de suite samedi matin, les producteurs des Pieds sur Terre. Cette fois, c'est nous. C'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, il y en a quelques-uns qui sont là, en plateau et en direct avec moi, pour vous présenter l'émission qu'ils ont faite, en état d'urgence, en bas de chez eux, au coin de leur rue. Rémi Douate, Alain Lefkovitch, Émilie Chaudet et Olivier Minot au téléphone depuis Lyon.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Rémi Douate, bonjour.
Bonjour Sonia.
Vous êtes producteur au Pieds sur Terre, vous habitez dans le 10e arrondissement de Paris et samedi matin, vous êtes allé rapidement à deux pas de chez vous, en fait à la rencontre de vous-même en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Donc je suis allé au Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge où 15 personnes ont été tuées vendredi soir. C'est là que toute la journée, les habitants du quartier ont défilé pour déposer des fleurs ou des bougies. Beaucoup pleuraient, comme cette jeune femme très émue qui m'a dit incrédule « c'est arrivé chez nous ». Et je me suis reconnu dans ce « nous » parce que 100 fois j'ai bu un verre au Carillon, parce que je connais des victimes et que ces visages en pleurs me sont familiers. Un quartier bobo, pour le dire vite, mais surtout un quartier très divers où toutes les religions, les nationalités vivent très bien ensemble. Et le Carillon en était le symbole. C'est le principe de proximité, il est à la fois absurde et légitime. Un mort en bas de chez soi est plus traumatisant qu'un mort à l'autre bout du monde. Alors je suis là, comme tout le monde, un peu hébété. Mais un micro donne une contenance. Je l'ai tendu à un habitant du quartier. Il habite en face du Petit Cambodge, rue Bichat, au 3e étage. Vers 21h30, il regarde chez lui le match de foot.
Vous habitez où, vous, monsieur?
En fait, le Bichat, rue Bichat, au 3e étage. Je vois en fait tout ce qui est là, comme ça. Avec ma mère, on est en train de regarder le match. Et à un moment, on entend un gros... Comme des bédards en fait, comme une espèce de boum 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 comme ça. Donc je suis sorti. En fait au début j'ai pas tout de suite compris, j'ai vu les gens en fait qui sautaient dans tous les sens, je voyais des éclairs, surtout là en fait, surtout de ce côté là comme ça partait comme ça en fait. Et vous entendez des gens crier et d'un seul coup j'ai vu un corps juste là, qui était juste là, au sol, qui bougeait plus, qui était inerte, qui était. Et là j'ai commencé un peu à comprendre en fait. C'est, voilà quoi, c'était. Il tirait comme ça, avec le bruit là qui faisait tac 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 tac. Enfin, ça s'est gravé dans ma tête là, c'est de voir des gens étalés morts comme ça et j'imagine pas les gens qui étaient là quoi, les gens qui ont vécu ça quoi.
Direct, le drame, oui, ça devait être horrible pour eux. Hein.
Je me souviens encore des trois jeunes là qui étaient là. En fait, ils étaient là et à un moment, je les vois courir et venir se cacher juste derrière et j'en vois un, il est comme ça, il se touche l'oreille, il est comme ça, Il a dû se prendre un impact, je sais pas ce qu'il s'est pris, mais il était là. Il criait de douleur, c'était horrible quoi. Ça faisait pam, 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 pam. Une scène de guerre quoi, c'était. J'ai vu quelqu'un en Vélib s'écrouler. J'ai vu une femme là aussi tomber. Un corps allongé là. C'était au-delà du réel quoi. On peut pas s'imaginer qu'il y ait un truc comme ça quoi. Et surtout en plus, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici, quoi. Je veux dire, toujours habité ici, c'est toujours un quartier assez tranquille. Les gens sont là pour sortir, pour boire un verre. Et comme il y a beaucoup de jeunes qui viennent, il y a beaucoup de... Je sais pas, c'est... Parce que même moi, en fait, j'allais sortir. Je devais rejoindre des amis, là, à Rue de Charonne. Quand je les ai appelés, en fait, ils étaient même pas encore au courant de ce qui s'était passé. Au début, ils me croyaient pas. Hein. Quand je leur ai dit que ça tirait, ils croyaient que je rigolais, en fait. Ils croyaient, mais... J'aurais dit, non, mais je rigole pas avec vous, là. Il y a des gens, là, ils sont étalés par terre. Il y a du sang partout. Ça aurait pas été le match, ben, forcément, je serais sorti vers 21h30, vers pile poil, là, quand ça a commencé, là. Je serais sorti, franchement... J'aurais pu être là, quoi. Sauf que je sais pas. Des fois, je vais au Franprix pour prendre un truc. Comme il ferme tard, je crois que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Voilà. Vous êtes du quartier, monsieur ?
Non, un petit peu plus haut, moi. Hein. Je suis content de voir qu'il y a du monde, que ça n'empêche pas les gens de sortir. C'est surtout ce qu'il faut faire, c'est pas changer ses habitudes. Je refuse à 75 ans de changer mes habitudes pour une poignée d'excités. Je dois aller à République, je descends en République, j'y vais à pied parce qu'il n'y a pas de bus, mais je descends comme d'habitude. C'est comme ça, c'est triste, mais là on a affaire à des excités qui sont persuadés de détenir la vérité. Voilà, excusez-moi, il faut que j'aille. Bonne journée.
On est à l'hôpital Saint-Louis, et visiblement sur l'un des lieux des fusillades d'hier. Et je ne m'attendais pas à me retrouver ici, je n'ai pas réalisé que géographiquement on était là. Je pensais que c'était dans le même arrondissement, mais je n'avais pas réalisé que c'était juste à côté. Je suis venue ici pour donner mon sang, parce que c'est la seule chose que j'ai pu penser d'utile à faire. Et ça rend les choses encore plus réelles, mais je ne suis pas sûre que j'en avais besoin. C'est déjà très réel. J'ai envie de pleurer, la voix qui tremble et les jambes qui flageolent. J'ai des amis qui habitent à côté du Stade de France qui ont entendu les explosions hier. On a passé toute la soirée à essayer de savoir si les uns et les autres étaient safe. C'est un parfait acte de terrorisme puisque c'est les lieux de convivialité, c'est les lieux de détente, c'est le sport, la culture, l'amitié, c'est... tous ces lieux-là ont été touchés, donc c'est pour faire flipper les gens, il n'y a pas mieux. C'est les atteindre dans ce qu'il y a de plus, dans les lieux où ils sont plus détendus et où ils se sentent le plus en sécurité. D'un point de vue stratégique, je trouve ça tellement bien joué. Horrible.
Alain Lefkovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez à Belleville et vous avez en fait tourné dans le quartier tout le week-end. Vous n'avez pas pu rester chez vous.
Non, très vite, je me suis dit qu'il fallait que je sorte. Pour faire quoi? Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'avais un enregistreur, alors je suis descendu de chez moi, comme après un cataclysme, comme après une tempête. Il fallait que je rejoigne tous ces gens qui se... précipitait autour des lieux de ces tueries. Et puis, il fallait que j'enregistre l'atmosphère de mon quartier, il fallait que je recueille ces paroles sans véritablement poser de questions. Donc j'ai promené mon micro au milieu de toutes ces bouches qui avaient des choses à dire. Et ce qui ressortait de toutes ces paroles, c'est surtout à ce moment-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère.
La première personne qu'on va écouter, vous l'avez rencontrée où et les autres également ?
Comme Rémi, en bas de la maison, devant le carillon, entre le carillon et le petit Cambodge.
On les écoute.
Vous savez, moi j'ai eu peur pour qui hier soir ? Titi. Titi, personne n'a son numéro de téléphone, on criait. Limite, nous, de là-bas, parce que vu qu'ils nous ont bloqués un moment. Et je criais, Titi, t'es où ? C'est pas possible. Et il était chez Yohan en train de regarder le match. Je dis, hier, ce qui nous a sauvés, et grâce à Dieu, c'est le match de France-Allemagne, parce qu'ici, ça allait être un carnage. Tu sais, c'est en train de remonter ici, j'ai les boules, frère. Tu sais pas, j'ai des trucs qui sont en train de remonter. Et surtout quand j'ai appris la petite soeur de mon pote, elle est morte, et les deux potes à moi ici qui sont morts. Tu vois, tu veux faire quoi? Mais c'est qu'une bande de lâches. C'est qu'une bande de lâches. Mais si c'est des bonhommes qui viennent, il n'y a pas de problème. Ils ont des armes. Bah alors nous, on va prendre des armes, on va aller loin d'ici. Et nous, contre vous, il n'y a pas de problème. Quoi? T'as des problèmes avec qui? Avec la Syrie? Va en Syrie, mon pote. T'as des problèmes avec quelque chose? Va, dégage. Tu viens faire quoi ici? Et au final, on va résumer tout ça. Tu sais, c'est qui? C'est la politique. En 2015, il n'y a aucun politicien dans ce putain de monde de merde qui est capable de dire quelque chose, excuse-moi. Voilà. Moi, je serais capable, demain, je le dis en direct, il n'y a aucun problème. J'habite au 5 bis rue Jacques Paris, ici. Il y en a deux encore vivants, ce qui paraît, ils sont encore dehors. Venez, vous allez me trouver là ce soir, je suis là. S'il y en a un qui est capable, viens, il n'y a pas de problème. Mais viens homme à homme, pas avec des armes. C'est comme ça. Ils sont pas capables. C'est des enfants, c'est des lâches.
Ça me fait mal au cœur quand même. Hein. Ah, ça me fait mal au cœur. Mais je suis à la rue, mais j'ai pas dormi toute la nuit. Mais c'est affreux. On dirait un coup que j'ai reçu. Tellement, même quand je suis rentré pour prendre mon café, je l'ai oublié. Kader m'a dit, comment ton café, tu l'as oublié? J'ai dit, excuse-moi, j'ai pas la tête là. Et depuis ce matin, je tourne. C'est horrible. Mais franchement, moi, si j'étais dans les autorités françaises, moi, ces gens-là, ils sont condamnés à mort. Il n'y a pas de pitié. Ils enlèvent la vie de quelqu'un, gratuitement. Ces gens-là, je ne sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Vraiment, je suis abattu, là. Mais hier, on a senti qu'il y a quelque chose. Qu'on n'a pas ni télé, on est à la rue, c'est vrai. Mais qu'on a entendu la nouvelle... Depuis 3 heures du matin, c'est fini, il n'y a plus de sommeil. Monter, descendre, chercher de l'eau dans le café, mettre dans le thermos et dans le sac, et voilà, tout ce qu'on boit. À la fin, je suis lessivé, je suis descendu un petit peu au métro, j'ai dormi un peu, et puis j'ai dit, allez, je sors. Et je m'assois. Et toujours la même place. Et ah, cette nuit, c'est une nuit infernale. Infernale. Moi, mes condoléances à toute la famille, à tous les jeunes là qui sont décédés, leurs proches. Je suis confus, je suis vraiment... Je suis touché, vraiment.
Voilà, les versets ne disent pas tout ça.
Et la Torah, c'est pareil, ils disent pas...
Il y a des choses qui, c'est vrai, ils disent de te protéger, ça c'est tout à fait normal. Tu protèges ton territoire, c'est tout à fait normal. C'est ton territoire.
Oh. Mais là, maintenant, il faut s'unir contre les terroristes pour que tout le monde
finisse. C'est un groupe, il est à part.
Mais c'est pas les musulmans pour moi.
C'est un groupe.
Pour moi, c'est pas... Je ne mettrai jamais les musulmans
dedans. C'est pas les musulmans, c'est un groupe.
Je sais bien.
C'est ça le problème. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, les gens.
C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je suis avec vous parce que, voilà, moi, j'ai envie d'être avec les musulmans, dire que c'est pas les musulmans le problème.
Croyez-moi, ma fille, je la fais grandir avec la haine ou quoi? Vous croyez que je lui dis, ouais, fais attention aux juifs? Hein? Mais jamais de la vie.
Pareil pour mon fils.
Mais jamais de la
mon
vie.
Fils, il traîne avec des musulmans. Et j'en suis content. Au moins, c'est important. Moi, j'ai grandi que avec des musulmans. J'allais faire la fête avec eux. Je mangeais couscous. Je mange pas de porc. Vous mangez pas de porc, c'est pareil.
C'est pareil. Il n'y a rien du tout, ça bouge pas.
Pour moi, vous êtes comme des frères. Vous êtes peut-être bêtes, mais voilà.
Pour vous dire, moi, j'ai... la sœur d'un pote à nous, elle est morte. C'est quoi? C'est musulmane. Elle est voilée.
On a une sœur voilée qui vient de mourir. Pourtant c'est un musulman, pourtant le mec en face c'est un musulman soi-disant, ils disent, hein. Mais il l'a bien canardé. Hein? Et je sais pas combien de balles elle a reçu la dame. Pourtant elle est voilée de haut en bas la dame. Hein. Mais elle est morte.
Allah,
mais c'est une musulmane, mais attends, moi si je suis un musulman, je vais tuer qui? Je veux pas tuer mon frère.
Non.
En tant que musulman, je vais tuer une autre race alors dans ces cas-là. Faut pas arrêter de polémiquer sur les musulmans, ils disent l'islam, le musulman, l'islam, c'est n'importe quoi. C'est une religion l'islam, c'est pas une... Voilà, sinon on va polémiquer aussi sur le judaïsme, sur le christianisme, sur tout, sur Bouddha, sur ci, sur ça, sur toutes les religions qu'ils ont créées. Ben non, c'est que voilà.
En tout cas, qu'en fait, maintenant on fasse l'amalgame entre musulmans et terroristes. Moi, en tant que juif, moi je suis contre ça. Pour moi, un musulman, ça reste un musulman, et il vit là, il est avec nous, et voilà quoi, c'est pas des terroristes.
Toi, peut-être, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur, mais autour de toi, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils savent? Et ils voient, et c'est tout. Ils voient que si ça, mais ils polémiquent, ils disent tout le sens contraire.
Moi, aujourd'hui, je suis en France, vous êtes en France, non, j'ai envie de vivre avec toi.
Pour vous dire, c'est important. J'avais une petite barbe. Ma mère, elle m'a dit quoi? Va la raser, s'il te plaît.
Ma mère aussi, elle m'a dit ça, tu vois.
Va la raser, pourquoi? Parce que on sait, je sais comment vous pensez, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Le problème, c'est que tout le monde va faire l'amalgame. Quand ils vont voir, regardez, on va dire quoi? Ah, Vous allez voir, les gens ils vont se ranger, ils vont,
le mec, il a
vont
mais
coller.
Toute l'année, alors,
c'est pas bon, c'est pas bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir.
C'est ça le problème.
On va dire que t'es musulman, donc t'es terroriste, je suis pas d'accord.
Moi, malheureusement, c'est ça. C'est ça l'image d'aujourd'hui. C'est ça.
C'est ce qu'ils disent. L'image de l'islam, c'est terroriste. Ça veut même pas, ça veut dire quoi, musulman déjà? Ou islam?
Ah ouais, tranquille.
Ciao. Bon courage, mon pote. Y'a pas de soucis.
On est venu faire des affichages pour les gens, pour qu'ils puissent justement s'exprimer, mettre une pensée, partager quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment de faire union, tous ensemble. Voilà. Il y a des enfants qui font des dessins. Il y a aussi des personnes. Vous pourrez nous tuer. Vous n'aurez jamais notre liberté. On vous aura tous, bande de merde. Bon, voilà, après, il y a sûr qu'il y a un petit peu de ressenti négatif. Et les gens sont encore dans l'affect. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de déposer cet affect. Et qu'il y a aussi de l'animosité. Et c'est important de la déposer sur du papier plus que par des actes qui doivent être plus violents.
Ma petite fille a des 8 ans. Elle a écrit « Nous avons les droits de vivre ». Maintenant, c'est devenu ça. On a peur de vivre, même d'exister.
Qu'est-ce que tu as écrit sur le mur ?
On a perdu, mais ils n'ont pas gagné.
Ça veut dire
Ça veut dire que peut-être qu'on s'est laissé faire, mais enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais j'espère que la paix va venir et qu'il y aura plus tous ces attentats, tous ces morts, et repose en paix pour les familles.
France Culture, les pieds sur terre. Émilie Chaudet, bonjour.
Bonjour Sonia.
On quitte la capitale, nous allons maintenant à Saint-Denis, où un rassemblement était prévu, je crois, vers 18h.
C'est ça.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, qu'il y aurait peut-être dans les banlieues une certaine fracture, comme il y avait eu après Charlie, que les gens ne se sentiraient pas concernés?
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existe pas vraiment, cette fracture. C'est pas celle qu'on pouvait observer, en tout cas, au lendemain des attentats du 7 janvier, entre les gens qui se disaient pas concernés, qui se disaient pas Charlie, et les autres, là... Tout le monde condamne, enfin tous les gens que j'ai rencontrés en tout cas, tout le monde a peur. Et il y a même cette peur partagée par les musulmans, les Français d'origine étrangère, les étrangers que j'ai vus à Saint-Denis, de voir monter encore l'islamophobie puis la xénophobie en général à la suite de ces attentats de vendredi soir.
Donc vous avez rencontré, vous êtes d'abord allé devant le lieu de rassemblement. Il a eu lieu ce rassemblement?
Non, il a été annulé et en fait j'ai quand même trouvé pas mal de monde sur cette place de la mairie entre l'hôtel de ville où un registre avait été mis en place à disposition des Dionysiens et deux cafés en face où tout le monde se retrouvait pour discuter. Et c'est après quand on s'éloigne un peu de cette place que ça se vide et aux alentours du Stade de France, on peut carrément entendre le silence. Il y a quand même quelques personnes que j'ai pu y voir et qui se disent évidemment toutes concernées par la peur et qui m'ont dit essayez de combattre cette peur en mettant le nez dehors et en retournant sur les lieux de l'attaque.
Mais la première personne qu'on va entendre, c'est un Rom.
C'est ça, c'est Saïmir, il habite à Saint-Denis. Il est à la tête d'une association de défense des Roms et il s'occupe entre autres d'un campement de Roms et de SDF à la Courneuve. Et vendredi soir, trois jeunes Roms qui se trouvaient tout près du Stade de France ont été blessés légèrement. Et évidemment, à la sortie de l'hôpital, ils devront retourner sur le campement.
Il y avait trois personnes, trois jeunes qui avaient été blessés à côté du Stade de France. Ils étaient aux abords du Stade de France où ils vendaient des gobelets. Donc ils essayent de gagner leur vie comme ils peuvent. Et c'est comme ça qu'ils ont été victimes de l'explosion. Ils ont reçu des objets métalliques pointus, donc des boulons, des vis au niveau des jambes, sur le torse, au niveau du dos. Et au bras, ce n'est pas très grave, voilà, bon, ça passera. Mais pour les deux frères qui sont à l'hôpital et qui y seront jusqu'à lundi au moins. Je ne sais pas ce qui se passera par la suite. Parce que bon, là, pour le coup, il n'y a personne à l'heure actuelle qui puisse les accueillir dans des conditions normales pour quelqu'un qui vient de l'hôpital, qui sort de l'hôpital, qui a des blessures, qui doit être suivi, changer les pansements, etc. On est quand même très vulnérable dehors. Quand on est dehors sous une tente 24 heures sur 24, on est quand même beaucoup plus exposé.
Ça fait bizarre. Personne ne sort. Enfin, j'ai vu croiser très très peu de personnes dans les alentours. Normalement, il y a toujours un restaurant ouvert, un McDo, un Quick, tout comme ça. Là, y a, c'est vide, il n'y a personne. Ça, on dirait une ville fantôme, on dirait. Pourtant, ça bouge ici. Là, on fait un petit tour autour du Stade de France pour voir, pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, on habite dans la cité juste à côté. Ça a résonné dans notre cité deux fois. Et puis, après le match, en fait, vu qu'on regardait la télé, on a appris ce qui se passait. Je veux juste savoir comment ça s'est déroulé, comment ça se fait qu'on laisse des petits de 15 ans avec une ceinture explosive. Comment ça se fait, comment c'est possible normalement, surtout qu'au stade on a l'habitude, on sait que c'est très bien sécurisé. Comment ça a pu se faire, je sais pas. Après je me dis, vu que moi je travaille sur Paris, peut-être qu'il y aura des soucis, peut-être que je vais rencontrer des soucis là-bas, donc je sais pas. Moi j'ai plus peur d'aller à Paris que de rester sur Saint-Denis, honnêtement. Je me sens déjà attaqué alors que personne ne m'a parlé. Je vois sur les réseaux sociaux, ça commence à parler, ouais, l'islam, etc. Alors que, de toute manière, c'est simple, l'islam bannit tout ce genre de choses. Moi, je me désolidarise totalement de ce genre d'action. Totalement. Voilà, on subit. C'est-à-dire qu'en fait, y a des personnes qui sont tuées. Et limite, on se fait insulter des tueurs alors qu'on est aussi français, on est autant français que les autres français. Enfin, je comprends pas.
Vous avez peur aujourd'hui ?
Non, j'ai pas peur. Si j'avais eu peur, je serais pas sorti de chez moi, j'aurais quitté le travail. Non, j'ai pas peur.
Olivier Minot, vous m'entendez ? Bonjour.
Bonjour Sonia.
Vous nous téléphonez de Lyon, vous êtes notre correspondant radioactif. C'était comment samedi matin à Lyon ? C'était aussi désert qu'à Saint-Denis ou à Paris ?
Samedi, bah moi je me suis levé comme tout le monde un petit peu sonné. Effectivement, j'avais envie d'aller voir dans les rues de Lyon s'il y avait du changement par rapport à l'habitude. Et en fait, pas du tout. Il a fait super beau toute la journée et tout le monde était dehors. J'ai assisté l'après-midi à un spectacle de riz qui déambulait dans le quartier de la Croix-Rousse et qui drainait 200 personnes de tout âge. Et puis le soir, à l'heure de l'apéro, les terrasses étaient bondées comme d'habitude.
Vous voulez dire que les gens n'étaient pas touchés, ils se sentaient pas concernés parce que c'était loin ?
Non, pas du tout. Les gens étaient touchés par les queues de ça, que ce soit dans les parcs pour enfants ou sur les terrasses. Mais il n'y avait pas de peur ou de tension, comme on a pu l'entendre à Paris. J'étais samedi, donc en début de soirée, sur la place des Terreaux, une des plus grandes places du centre-ville de Lyon. Une place très fréquentée le samedi soir, et sur les marches de l'hôtel de ville qui donne sur cette place, des bougies ont été déposées. Des personnes s'arrêtaient quelques minutes pour se recueillir. Alors, les gens n'avaient pas peur de sortir, mais avaient quand même envie d'échanger. Dès que quelqu'un parlait dans mon micro, d'autres personnes venaient spontanément écouter et réagir.
On est samedi soir, samedi 14 novembre, place des Terreaux, une des grandes places du centre-ville de Lyon.
C'est triste d'en arriver là.
Ouais, c'est triste.
Je trouve ça désolant.
Vous voulez des bougies ?
Ah bah allez.
Bah servez-vous, tant que vous voulez.
Et vous les vendez ?
Non, bien sûr que non.
Ah ouais ? Ah bah c'est gentil. Allez, bah chacun une bougie. Merci, tiens Ami.
Moi j'ai vu des gens qui mettaient des bougies, je pense que ça c'est pour rendre hommage aux plus de 120 personnes qui sont décédées à Paris. Franchement, je ne sais pas ce qui leur a pris. Ils n'ont pas fait le distinguo, ils sont arrivés, ils ont chargé leur arme et ils ont rafalé, c'est tout. Ils ne se sont pas dit lui les musulmans, lui les juifs, lui les chrétiens, allez hop, ils ont descendu tout le monde et c'est fin de l'histoire. Ils ne se sont pas cassés la tête. Ça me chagrine, ça me fait mal au cœur, ça va faire un peu comme l'effet après Charlie Hebdo. Moi, une fois, j'ai eu droit, c'est à cause de gens comme moi qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Après moi, Je suis français, je vote, je vis ici, je paye mes impôts, comme tout le monde, mais voilà, je suis de confession musulmane, là on va faire la balgame et c'est malheureux. Je pense que ça va être dur, c'est tout. Le terrorisme, il n'a pas de religion. Je vais vous sortir une belle citation qu'a dit Voltaire à un moment. Le fanatisme est un monstre qui ose se dire fils de la religion.
Et moi, c'est ça dont j'ai peur, c'est que les gens fassent l'amalgame avec les musulmans et les prennent pour tous pour les terroristes. Ça n'a rien c'est à voir. Ces gens sont des monstres, ils n'ont pas de religion. Moi, ça me fend le cœur. Moi, j'avais des amis hier au Bataclan. Je devais d'ailleurs aller à ce concert, mais par entretien d'embauche et souci de recherche d'emploi, j'y suis pas allé. Et donc, mon ami Jason, qui s'est pris une balle dans la tête, qui lui a raflé le crâne. Il est pas mort. Justement, il est allé à l'hôpital toute la soirée, je l'ai pleuré toute la soirée. Et j'ai eu des nouvelles vers 3h30 du matin. Et c'était un groupe de potes, une dizaine, et tous sont en vie. Et je me sens soulagé, mais aussi meurtri. Parce qu'il y a des mères que j'ai vues aussi, des mères. Et moi, j'ai une mère. Et là, une mère a dit, et j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure, j'ai offert une place à mon fils pour lui faire plaisir. Je ne savais pas que je lui offrais la mort. Et c'est immonde. Pour moi, à s'attaquer à la musique, à des gens qui veulent juste partager un moment, que ce soit au Stade de France pour le sport, que ce soit au Bataclan pour la musique, c'est s'attaquer à ma véritable patrie. Et c'est l'entente entre êtres humains. Et ça, je peux pas le tolérer. Et à Charlie Hebdo, c'était autre chose, c'était plus ciblé. Et aujourd'hui, on s'attaque vraiment à ce qu'on ressent tous, à ce qui nous rapproche, à ce qui nous unit.
Tous les jours, les gens, ils sont partis, qu'ils aillent à un concert.
Même dans un bar.
Même dans un bar, ils étaient en train de regarder du foot. Ça fait pas plaisir à voir.
Je voyais le jeune homme qui disait que un grand mal des Français c'était de faire un amalgame, mais moi je pense que le plus grand mal français aujourd'hui c'est de pas être patriotique, et que si aujourd'hui on dit mais la France est divisée, oui la France est divisée, parce que de toute façon les gens qui viennent en France, qu'ils soient immigrés, qu'ils soient noirs, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient arabes, si les Français eux-mêmes se sentent pas français, les immigrés qui arrivent peuvent pas se sentir français. C'est même plus une nation, c'est même plus une patrie. On n'est plus patriotique.
Le problème, c'est que quand on a raté le coche à un moment donné, il faut des années pour arriver à remettre les choses un peu au point. Je crois qu'effectivement, il faut apprendre aux gamins les valeurs de la République et il faut les mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de dire liberté, égalité, fraternité si au coin de la rue, on leur sort qu'ils sont un sale bougnoul ou un sale nègre. Effectivement, ça a peu de chances de marcher. Et que, bon, effectivement, les gens qui sont rejetés de partout, c'est extrêmement facile, après, de les manipuler, parce qu'ils n'ont rien à perdre.
Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, les terroristes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est semer le chaos et la peur, et que si aujourd'hui, les gens osent même plus sortir de chez eux, c'est bien qu'ils ont peur, donc c'est les laisser gagner. Moi, je considère que sortir de chez soi, aujourd'hui...
On n'est pas terrorisés. Voilà. Oui, autrement, on serait chez nous, cloîtrés.
Et il y a du monde. Les terrasses sont remplies. J'ai l'habitude de venir sur la place Terreau le samedi, je vois pas la différence. Hein. Il y a du monde.
La place est comme d'habitude, comme tout samedi soir. Les terrasses sont pleines parce qu'il y a fait beau, il fait encore pas trop froid. Et aucun signe apparent d'état d'urgence ou quoi. Il n'y a même pas de... Habituellement, il y a même la police, mais pas là. Il y a juste sur les marches de l'hôtel des villes donne sur cette place des terreaux des bougies qui ont été posées.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, état d'urgence à Paris, Saint-Denis et Lyon. Reportage Rémi Douatte, Alain Lefkovitch, Émilie Chaudet et Olivier Minot. Merci à tous ceux qui nous ont parlé, à Saskia Cousin, à Machou de Couton. Un grand, grand merci à notre réalisateur Emmanuel Geoffroy, la technique Ariane Herbé, Sandrine Chaperon. Vous vous en doutez, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Philippine Lebret, c'est notre stagiaire. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture.